France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, retour sur les annonces faites cette semaine par le ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Stanislas Guérini dit vouloir lever le tabou du licenciement tout en précisant qu'il n'y aura pas de licenciement collectif mais que l'emploi à vie ne doit pas être un totem. L'opposition dénonce une opération de communication anti-fonction publique. Les syndicats sont furieux. Ils rappellent qu'ils ne sont pas demandeurs d'une nouvelle réforme alors que la précédente date de 2019 seulement. Ils estiment surtout que le licenciement n'est pas le sujet à l'heure où la fonction publique peine à recruter, que la priorité c'est avant tout le niveau des rémunérations pour permettre aux agents de vivre de leur travail. Alors pourquoi l'exécutif a-t-il décidé de remettre l'ouvrage sur le métier, et cela à 3 mois des Jeux Olympiques, au risque de braquer les organisations syndicales, ce qui n'a d'ailleurs pas raté, puisque la CGT a décidé de rejoindre FO en déposant un préavis de grève pour 5 mois à compter de ce lundi. Alors ce soir, on va reprendre les sujets qui fâchent les uns après les autres, licenciement, rémunération au mérite, fin des catégories ABC, temps de travail, management. Avec nous pour en parler dans ce studio, Joan Teret, bonsoir.
Bonsoir.
Co-fondateur du think tank Sens du service public, vous êtes vous-même fonctionnaire, haut fonctionnaire, directeur général adjoint chargé du pôle ressources de la ville de Rennes et de Rennes Métropole. Avec nous également Xavier Iacovelli, bonsoir.
Bonsoir.
Sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, vice-président de la commission des affaires sociales du Sénat. En duplex de Metz, bonsoir Mylène Jacquot.
Bonsoir.
Secrétaire général CFDT Fonction publique. Merci au passage à nos confrères de France Bleu Lorraine Nord pour cette liaison à distance. Merci en tout cas à tous les trois d'être là ce soir pour répondre aux auditeurs de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Pour commencer, direction Calais, où on en retrouve Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Oui, bonsoir.
Fonctionnaire territorial, dites-nous tout.
Alors oui, je souhaitais intervenir parce que hier le président parlait de maladie française en parlant des impôts. Je me demande s'il n'y a pas une autre maladie au gouvernement, c'est celle de vouloir créer des lois qui existent déjà. Je suis fonctionnaire territorial et il existe un complément indemnitaire annuel. C'est déjà une manière de rémunérer les fonctionnaires au mérite. D'ailleurs, c'est un dispositif qui ne fonctionne pas bien et qui est souvent d'ailleurs priorisé sur les grades de catégorie A et les fonctionnaires à responsabilité. Donc, je m'étonne un peu de cette proposition du gouvernement. Et puis, par ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs fonctions publiques. La territoriale en est une. Il y a beaucoup de fonctionnaires dans cette catégorie-là. Et la proximité élu technicien pose question et me paraît un petit peu délicate quand on envisage la question donc de la rémunération au mérite. Cette proximité ne va-t-elle pas nuire à des rémunérations justes dans des baronnies parfois, hein, au niveau local, on peut observer cela. Donc voilà, je m'interroge sur à la fois le timing de cette proposition de loi, mais vous me direz, les Européennes arrivent dans le viseur, et puis en même temps sur la nécessité de cette réforme-là en ce moment.
Voilà. Merci beaucoup Stéphane, on va répondre à vos questions, on va répondre sur le timing, sur l'aspect politique de la réforme annoncée cette semaine, mais peut-être on va commencer avec vous, Joan Teret, du think tank Sens du service public, sur la question posée en matière de rémunération, ce que nous dit Stéphane, rémunération au mérite, donc ça existe déjà en partie.
Alors oui, en effet, ça existe en partie avec ce qui a été dit avec l'existence du CIA, le complémentaire individuel d'activité, qui est en effet une part éventuellement variable du régime indemnitaire. Simplement pour dire que aujourd'hui, le vrai sujet sur la rémunération, c'est le niveau des rémunérations. C'est pas de savoir si on veut instituer une rémunération au mérite ou une rémunération à la performance. Aujourd'hui, la faiblesse des rémunérations dans la fonction publique est le principal problème en matière d'attractivité de la fonction publique.
Et de ce côté-là, Mylène Jacquot, secrétaire générale CFDT Fonction publique, j'imagine que vous allez dans le même sens que Joan Teret.
Oui, tout à fait. Ça fait quand même maintenant plusieurs mois qu'on appelle à l'attention du gouvernement et de l'ensemble des employeurs sur le sujet du pouvoir d'achat. On sait qu'il y a On va pas refaire l'actualité des 2 dernières années, mais des niveaux d'inflation très élevés, et du coup des difficultés vraiment sur les dépenses. Et du coup, on a des attentes vraiment très très fortes. L'attente prioritaire des agents de la fonction publique aujourd'hui, c'est celle-là. Mais ce que disait Stéphane place tout à fait bien toutes les difficultés que concentre ce projet de loi. Ce projet de loi, on pourrait en partager les ambitions, mais par contre, la méthode nous semble totalement décalée. Et on a déjà des leviers qui existent. On a cité l'indemnité, qui peut être variable, mais vous avez aussi des avancements de carrière qui ne se font pas du tout au même rythme entre les agents. Vous avez des agents qui vont avoir des promotions beaucoup plus vite que l'autre. Donc, on a déjà là deux leviers qui existent pour valoriser l'engagement, la montée en compétences des uns et des autres. Réfléchissons à ces leviers. Peut-être qu'il faut revoir la manière dont on les utilise, mais en tout cas, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Et sur la question que posait aussi Stéphane, c'est sur l'évaluation, on a là un vrai chantier. La loi propose de l'ouvrir, mais encore une fois, on ne voit pas pourquoi il faudrait codifier un exercice qui est en fait un exercice de management très en proximité.
Alors,
et donc, vraiment, sur la méthode, on a un désaccord profond du côté CFDT avec ce que nous propose le gouvernement.
On y reviendra et vous nous raconterez comment s'est déroulée d'ailleurs la réunion avec Stanislas Guérini, puisque vous y étiez. Mais peut-être sur le timing, Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, Stéphane disait, s'interrogeait sur le timing. Pourquoi maintenant? Pourquoi cette initiative du gouvernement sur ce sujet-là, alors que la précédente réforme de la fonction publique date de 2019?
Vous aurez remarqué que on s'arrête pas généralement depuis 2017 de réformer et on s'arrête surtout pas à la veille des élections. Ça n'est pas parce qu'il y a des élections européennes comme notre auditeur a pu le soulever que nous allons nous empêcher de mettre des sujets sur la table, des sujets qui sont importants pour la revalorisation aussi des agents de la fonction publique. Vous savez, moi je suis un élu local, je sais ce que les Français doivent au service public et ce que doivent aux agents de la fonction publique. Et donc oui, il est important aujourd'hui d'avoir une attractivité sur ces métiers qui sont essentiels pour rendre le service aux Français. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a du mal à recruter.
Et vous pensez que les annonces de Stanislas Guérini, quand il vient et qu'il dit l'emploi ne doit pas être un totem, il faut poser la question du licenciement, ça peut provoquer de l'attractivité?
Mais clairement, enfin, aujourd'hui, quand on a effectivement sur 100 agents, quand on en a un qui fait pas son travail, vous croyez que ça valorise les 99 autres qui, eux, sont gérés et traités de la même façon que celui qui ne fait pas son travail? Moi, je pense qu'il y a effectivement un problème. Il faut enlever les tabous. Et honnêtement, lancer des discussions avec les partenaires, des partenaires sociaux avant de faire un projet de loi, c'est tout à fait normal et c'est ce qui fait aussi le dialogue social dans notre pays. Donc oui, effectivement, il y a des mesures qui existent déjà. Je vous rappelle qu'en 2019, Olivier Dussopt, ministre du travail ministre de la fonction publique à l'époque, avait effectivement élargi la possibilité de la rupture conventionnelle aux agents de la fonction publique. Et ça, c'était plutôt quelque chose d'une évolution positive pour les fonctionnaires. Et donc, il faut effectivement moderniser notre fonction publique. Moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui que les catégories A, B et C, qui sont pour le coup très rigides, notamment en termes d'évolution de carrière, soient aujourd'hui quelque chose qu'il faille garder pour améliorer l'attractivité de la fonction publique.
On va en parler, Joan Teret, vous souhaitiez réagir?
Oui, dire qu'aujourd'hui, la fonction publique, sa principale problématique, c'est un problème d'attractivité et de conserver ceux qui sont déjà en poste. C'est pas de chercher à se séparer par le licenciement de ceux qui sont en poste. Donc, la problématique sur le licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est une question de gestion, mais commencer la réforme, entamer la discussion avec les partenaires sociaux sur le licenciement pour insuffisance professionnelle, il faut reconnaître que c'était une véritable provocation. D'autant plus que, j'insiste, le licenciement pour insuffisance professionnelle, aujourd'hui, il existe, il est possible. Si le ministre ne l'active pas suffisamment dans son ministère, c'est de sa responsabilité. Je veux dire, la jurisprudence, elle est très claire, chaque ministre est responsable de son ministère. Dans la fonction publique territoriale, pour celle que je connais mieux, il y a 200 licenciements par an. Donc ça existe. Il ne faut pas dire qu'il y a l'emploi à vie et qu'il y a une sécurité à vie de l'emploi.
Donc le réaffirmer ne pose pas de problème. Réaffirmer une règle qui existe, ça ne pose donc pas de problème. Donc on voit bien parce que là, on parle uniquement de la question du licenciement et de l'annonce, effectivement, sur un licenciement possible pour les agents de la fonction publique. Mais comme vous le dites, il existe. Et en plus, ce n'est pas le seul élément de cette réforme et de ce projet de loi.
Alors, on va demander à Mylène Jacot, qui n'est pas avec nous, qui est en duplex, de réagir, parce que je crois que vous vouliez justement réagir, Mylène Jacot, secrétaire générale CFDT Fonction Publique.
Oui, merci sur le timing. Je pense que monsieur le sénateur le rappelle fort bien. Mais du coup, ça nous renvoie à la question que je posais tout à l'heure. Pourquoi il faut une loi pour réaffirmer des règles qui existent ? C'est là qu'on ne comprend pas l'intention. Sur la question de l'attractivité, j'en ajoute une autre. C'est une ambition qu'on partage, hein, rendre de l'attractivité à la fonction publique. On a des propositions à faire en ce sens. Il y a un autre sujet, c'est celui de la fidélisation. Aujourd'hui, il y a un malaise tellement profond dans la fonction publique que la question, c'est pas celle du licenciement, c'est celle des demandes de rupture conventionnelle. Et au moment de 2019, j'étais déjà là, c'était une revendication qui était d'ailleurs portée par la CFDT, de permettre, de donner la possibilité aux agents de pouvoir partir dans de bonnes conditions. On a 5500 ruptures conventionnelles aujourd'hui. Et ça ne dit pas le nombre de ruptures conventionnelles qui sont refusées. Donc le sujet, il est là. Et c'est pas en agitant la menace du licenciement, de lever un tabou, un totem ou je ne sais quoi d'autre, qu'on résoudra les enjeux qui sont ceux de la fonction publique et de ses agents, des hommes et des femmes qui travaillent dans la fonction publique, au service des populations, des usagers, de l'intérêt général, qu'on apportera des réponses à la hauteur.
On va repartir au standard de France Inter, retrouver Patrice qui est en Lorraine. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir à tous et à toutes.
Vous êtes sur l'antenne, on vous écoute.
Voilà, je parle d'un constat, c'est que le gouvernement est encore obligé de faire de la publicité, comme il y a une trentaine d'années, pour recruter des enseignants pour un métier de plus en plus difficile, largement exercé par des femmes. Je me demande si c'est quand même pas une hérésie que de vouloir stigmatiser, je crois qu'il faut dire le mot, une nouvelle fois les fonctionnaires. Alors je suis à la retraite, j'ai constaté pendant mes dernières années de travail qu'il y avait une baisse énorme du pouvoir d'achat. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de revalorisation. C'est un métier quand même qui est difficile nerveusement. Je peux vous assurer que certes on a des vacances, mais c'est vraiment pour un petit peu récupérer de la fatigue nerveuse. C'est un métier où il y a des plaintes pour un oui, pour un non par rapport à certaines personnes. C'est un métier maintenant où les gens vont partir à 64 ans pratiquement s'ils veulent avoir leur taux plein. Et puis je vois pas comment on peut faire un travail au mérite parce que les élèves c'est pas des objets, hein. Il y a énormément de variables. Et puis alors, vous parliez à l'instant de licenciement, mais je connais de plus en plus de personnes que j'ai connues parce que j'étais formateur qui disent maintenant je n'irai pas jusqu'au bout parce que j'en ai marre de la façon dont on est considéré et comment on va les considérer à l'avenir.
Merci beaucoup Patrice pour cette intervention. Xavier Iacovelli, c'est vrai que c'est un peu bizarre de prendre les choses par ce bout-là au moment où la fonction publique peine à recruter dans des tas de domaines. Hein. On entend ce qui se passe du côté des enseignants, à l'hôpital. Enfin, c'est bizarre de prendre les choses de cette façon-là, non ? Non,
mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce n'est pas la première réforme depuis le deuxième quinquennat sur la fonction publique. Je vous rappelle quand même que il y a moins d'un an, oui, deux ans, nous avons eu la plus grosse revalorisation de la fonction publique depuis 37 ans, depuis le premier septennat de François Mitterrand. Je vous rappelle, un agent d'accueil, c'est 230 € de plus par an. Un gardien de la paix, c'est 240 € par mois de plus. Un professeur des écoles, c'est 320 € de plus par mois. Donc oui, on fait une revalorisation qui était normale parce que nos fonctionnaires territoriaux ou la fonction publique d'État étaient sous-payés, il faut se le dire. Pendant des années, elle n'a pas été revalorisée. Et donc oui, nous avons pris nos responsabilités.
Mais n'empêche que ça ne se bouscule pas au portillon.
Mais bien sûr, mais je ne dis pas le contraire. Sauf que c'est une étape, la revalorisation en est une autre étape. La modernisation aussi de notre fonction publique, elle est aussi indispensable. La mobilité à l'intérieur de la fonction publique pour rentrer plus facilement dans la fonction publique, pour évoluer en carrière dans la fonction publique, pour en sortir aussi plus facilement. Peut-être que c'est aussi un élément plus attractif pour les Français qui veulent aujourd'hui rentrer au service des Français.
Mylène Jacquot.
Bon, écoutez, je suis assez surprise de voir à quel point on a l'impression que les défenseurs du projet de loi se mélangent un peu les pinceaux. Sur la rémunération, effectivement, on a eu des augmentations significatives de la valeur du point d'indice. 3,5% en 2022, après c'est repassé à 1,5% en 2023. Mais à combien était le niveau de l'inflation ? Donc nous, on l'a dit très clairement, je reprends les termes de notre communication, c'était de dire qu'il y avait effectivement une augmentation inédite, mais dans un contexte d'inflation tout aussi inédit. Et la difficulté dans la fonction publique aujourd'hui, c'est qu'on est dans un marché de l'emploi qui est concurrentiel, c'est pas nouveau, et que les agents savent très bien se renseigner, lire toute la documentation qui est à disposition, et que aujourd'hui, le salaire moyen, il a augmenté davantage dans le secteur privé que dans la fonction publique. On a aujourd'hui des écarts de rémunération qui, plus vont monter en compétences et en qualifications, sont élevés par rapport à ceux qui existent dans le secteur privé. Donc, on est face à cette difficulté. On ne pourra pas faire comme si ces difficultés-là n'existaient pas.
Alors, je voudrais peut-être... Hélène Jacquot.
Non, c'était simplement les organisations syndicales et les interventions que j'entends de la part de gens qui sont collègues, hein, j'imagine. c'est la preuve que les organisations sont bien représentatives des agents. C'est nous qui sommes légitimes à porter la parole des agents. Tant qu'on refusera d'entendre les propositions que nous faisons, parce que nous faisons des propositions. J'attends qu'un des ministres que j'ai pu avoir comme interlocuteur au cours des dernières années vienne nous dire le contraire. Nous faisons des propositions. Aujourd'hui, nous sommes face à un gouvernement qui est probablement celui qui les entend le moins, ce qui est quand même terrible.
À propos du manque d'attractivité de la fonction publique, je voudrais vous citer très rapidement une étude du CEVIPOF, issue du baromètre de la confiance politique de 2024. Des chiffres qui nous ont été communiqués par le politologue Luc Rouban, qui est un spécialiste de la fonction publique. On a demandé aux personnes interrogées où il y avait le plus de chances de réussir sa vie en travaillant. Les fonctionnaires ont répondu à 37% dans le privé et à 40% seulement dans le public. Les salariés du privé, eux, ont répondu à 65% dans le privé et 17% seulement dans le public, ce qui prouve que la fonction publique ne fait plus rêver, Jean Hanteret, on y revient.
Je pense qu'il ne faut pas dire que la fonction publique ne fait plus rêver, mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un problème d'attractivité pour faire venir de nouvelles personnes, notamment les jeunes, et il y a un problème de fidélisation. Et il n'est pas raisonnable pour le ministre de la fonction publique de stigmatiser, de critiquer les fonctionnaires en envoyant des signaux aussi négatifs que parler du licenciement, parler de la rémunération à la performance. En mettant à l'agenda public ces sujets de cette façon-là, c'est une provocation et ça sous-entend que les fonctionnaires ne sont pas performants, qu'il faut les licencier. Est-ce qu'on a déjà vu un employeur privé parler comme ça de ses salariés ? Jamais. Et heureusement qu'il ne le fait pas. Donc, le ministre de la fonction publique,
il doit avoir un discours. Il le fait, par contre.
Mais le ministre de la fonction publique, il doit avoir un discours responsable. Et quand on entame une loi, et Stanislas Guérini dit qu'il veut mener une grande loi, alors qu'en effet, il y a eu déjà une loi sur la fonction publique en 2019, dans ce cas-là, cette grande loi, elle doit traiter des problématiques qui sont aujourd'hui présentes dans la fonction publique. La rémunération, le déroulement de carrière, la représentativité de la fonction publique, c'est ça les sujets de la fonction publique aujourd'hui. C'est pas de savoir s'il faut mettre la rémunération à la performance. Est-ce que pendant le Covid, les fonctionnaires hospitaliers n'ont pas été performants ? Oui ou non ? Faut se poser la question.
Jean-Baptiste nous appelle depuis Aix-en-Provence. Bonsoir Jean-Baptiste.
Bonsoir Fabienne, déjà merci.
Alors c'est clair le vendredi, mais c'est pas grave Jean-Baptiste, je ne vous en veux pas. Il n'y a pas de souci.
Bonsoir Claire. Donc d'abord merci à France Inter, Radio de Service Public, de creuser les sujets et de nous mettre et de mettre des points de vue différents sur la table. Ma question concernait la rémunération au mérite. Alors on entend bien qu'à l'approche des élections, M. Guérini puisse donner des slogans fracassants qui sont ex-Twitter compatibles, sauf que rémunérer les fonctionnaires au mérite, ça fait 40 ans que la rémunération des fonctionnaires est en baisse, puisqu'on n'évalue pas le point d'indice par rapport à l'inflation. Ça fait 4 années de suite qu'on est obligé de tripoter le bas des grilles pour rattraper le SMIC, on aurait sinon des fonctionnaires qui sont en dessous du SMIC de la part de la force publique, ce serait que ce serait embêtant. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas taper dans la rémunération des fonctionnaires. Le seul moyen de récompenser des fonctionnaires méritants serait de leur donner une prime. Donc aujourd'hui, où on nous parle d'économie budgétaire, comment est-ce qu'on pourrait financer des primes pour 5 millions de fonctionnaires ? Et je ne parlerai même pas de la capacité de la force publique à avoir les outils managériaux pour faire de l'évaluation de missions qui sont pas comptables. Hein. On ne peut pas compter le chiffre d'affaires de l'hôpital ou de la police.
Merci beaucoup pour cette intervention, Jean-Baptiste. Xavier Iacovelli,
Alors déjà, je ne peux pas laisser dire qu'on a tripoté le bas des grilles pour rattraper le SMIC. On a juste réévalué effectivement des bas salaires, notamment des catégories C, qui étaient sous-payées pendant des années. Donc on n'a pas tripoté, on a revalorisé. Et je pense que c'était indispensable. Et c'est à l'honneur de ce gouvernement de l'avoir fait. Parce qu'effectivement, pendant des années, des décennies, on a laissé des catégories C sous-payées par rapport au reste de la fonction publique. Donc c'est bien parfois d'utiliser les bons mots quand on parle de la revalorisation des salaires. Après, moi, vous savez, je suis élu local et moi, je suis sénateur aussi, donc représentant des collectivités locales. Moi, je ne sais pas expliquer à un maire aujourd'hui qu'il ne puisse pas titulariser, par exemple, un apprenti parce que les règles sont trop rigides, ou qu'il ne puisse pas revaloriser un agent ou faire évoluer dans des différentes catégories un agent au mérite parce que, en fait, les règles sont fixées à l'échelle nationale et qu'il y a des quotas par catégorie qui sont ultra rigides et qui datent quand même depuis maintenant quelques années. Donc on a besoin, en fait, si on veut rendre cette fonction publique territoriale, hospitalière, d'État attractive, il faut qu'on puisse la moderniser, il faut qu'on puisse la rendre attractive, il faut qu'on puisse avoir des rémunérations qui soient à la hauteur aussi de l'engagement des fonctionnaires dans le service public. Et oui, effectivement, il faut aussi enlever ce tabou de se dire bah, s'il y a quelqu'un qui ne correspond pas à la volonté, enfin en tout cas à l'image qu'on se fait du service public, eh bah, oui, il faut pas qu'il reste, tout simplement. Honnêtement, le service public, c'est aussi l'argent des Français. Et donc, on se doit de rendre ce service correctement aux Français. Et donc, quel que soit notre milieu, que ce soit dans le milieu associatif, dans le milieu privé, et maintenant peut-être dans la fonction publique, quand on ne convient pas au poste dans lequel on est, eh ben il faut partir.
Vous entendez ça comment, Jean Enterré, vous qui êtes chargé justement des ressources, et notamment, j'imagine, des ressources humaines à l'île de Rennes.
J'ai l'impression qu'on se croit un peu dans le monde magique de Winnie l'ourson. C'est-à-dire que les préoccupations qui sont énoncées là ne sont pas les préoccupations du monde réel, ni des usagers, ni des agents publics, ni des employeurs. Je le regrette, mais le licenciement, aujourd'hui, il est possible. Moi, le premier, je dis qu'on peut revoir cette règle de gestion, la simplifier. Mais je ne pense pas que ça soit le sujet numéro un.
C'est pas le sujet numéro un.
La question de la rémunération est un sujet important. Vous dites qu'aujourd'hui, les agents de catégorie C ont été fortement revalorisés. Aujourd'hui, un agent de catégorie C qui a 8 ans d'ancienneté, il est au SMIC. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Et il était en dessous avant qu'on fasse cette réforme.
Il peut pas être en dessous. Il y a quand même des sécurités. Mais en tout cas, il a 8 ans d'ancienneté, il est encore au SMIC. C'est aujourd'hui la fonction publique, c'est ça. Sur les apprentis, vous avez raison. En effet, la fonction publique aujourd'hui, les trois versants recrutent 26 000 apprentis. Qu'on organise une voie réservée pour leur permettre d'entrer dans la fonction publique, en effet, c'est une très bonne mesure. Mais ça, on aurait pu déjà l'entamer depuis plusieurs années. La question de l'image qui est renvoyée aujourd'hui sur la fonction publique, elle est quand même, passez-moi l'expression, mais déplorable par le ministre de la fonction publique. Elle est stigmatisante et voire même infamante pour les fonctionnaires. Et je redis que c'est pas comme ça qu'on va attirer et fidéliser des fonctionnaires qui sont parfois, en effet, fatigués.
Mylène Jacot, qui est à Metz, veut intervenir.
Oui, deux points. Sur la question de l'accès aux apprentis. Dès les discussions autour de la loi de 2019, la CFDT avait appelé l'attention du gouvernement sur ce sujet-là. On ne peut pas participer à l'effort de formation, et ça c'est normal, en ne donnant aucun espoir d'intégrer la fonction publique aux apprentis conformes. Donc c'est un sujet sur lequel il convient effectivement de travailler. Mais il n'y avait pas besoin d'attendre aujourd'hui pour le faire. Encore une fois, si on nous avait un peu écoutés et qu'on s'était donné peut-être un peu plus de temps, on aurait pu faire mieux. Mais c'est fait. Sur la question du SMIC, là aussi, c'était une revendication de la CFDT que d'aligner systématiquement l'indice le plus faible de la fonction publique sur le SMIC. On a enfin réussi à avancer, c'était Amélie de Montchalin. Je le dis, c'est Amélie de Montchalin qui l'a fait et qui avait pris l'engagement d'inscrire les choses de manière aussi pérenne que possible. Depuis, c'est le cas. Je ne trouve pas qu'il y ait beaucoup de fierté aujourd'hui à tirer, à annoncer que la fonction publique rémunère ses agents en respectant le salaire minimum. C'est quand même la moindre des choses. La moindre des choses. Ce qui nous choque aussi, c'est qu'un gouvernement appelle les employeurs du secteur privé à leurs responsabilités en matière de pouvoir d'achat, tout en s'en exonérant lui-même. Donc ce qu'on dit aujourd'hui pour revenir à ce projet de loi, il n'est la volonté, il ne répond qu'à une priorité, c'est celle du gouvernement. Il ne répond pas aux enjeux de la fonction publique. Aujourd'hui, les organisations syndicales, et particulièrement la nôtre, on ne demande pas le statu quo. On porte des propositions, on porte des revendications qui sont quand même pas totalement ubuesques. Et c'est cette difficulté-là aujourd'hui qu'on a. On a un monde qui est un monde de travail, hein, aussi divers et différent qu'il a pu être décrit, y compris par les auditeurs et les intervenants, et auquel on n'apporte pas du tout les bonnes réponses. Pas du tout les bonnes réponses. Et pire, qui est stigmatisé. Nous, on pensait, il y a quelques mois, quand il a commencé à être question de ce projet de loi, que ça serait une loi pour l'attractivité de la fonction publique. Aujourd'hui, c'est devenu une loi pour l'efficacité. Et pourquoi pas pour l'efficience demain, enfin, on peut encore avancer. Donc, franchement,
on va poursuivre.
Quand on dit qu'on passe à côté des enjeux, on y est bien loin.
Le téléphone sonne.
Le téléphone sonne consacré ce soir à la réforme annoncée de la fonction publique. On va aller cette fois retrouver Gérard qui nous appelle de Lyon. Bonsoir Gérard.
Bonsoir à tous.
On vous écoute, vous aviez une question, une remarque, un commentaire ?
Non, j'ai deux commentaires. Moi j'ai été fonctionnaire toute ma vie, directeur très longtemps, j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'on dit toujours la même chose, on revient toujours des questions de salaire. Or, moi qui étais directeur, je me suis quand même aperçu, comme tout le monde, que tout le monde n'est pas pareil dans l'exercice de n'importe quelle mission. Il y a des différences entre nous, il y a des gens qui sont très motivés, des gens qui se donnent beaucoup de mal, et d'autres un peu moins bien. Alors, plutôt que de parler de licenciement, moi ce que je souhaiterais dire, c'est que ce qui est important, c'est de pouvoir valoriser au maximum les personnels qui sont sous l'autorité des dirigeants. C'est mon premier point. Vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Il y a un moment où on a donné aux gens à manger, à dormir, etc., à se loger. Et puis, il y a le moment où on les considère. Et si on ne considère pas les gens, on décourage ceux qui font le maximum quand ils voient les autres qui en font un peu moins. Sans stigmatiser les gens, essayons de tirer tout le monde vers le haut. Et mon deuxième point, c'est de dire, pour faire cela, il importe que dans la fonction publique, on choisisse comme responsable de service ou dans les services déconcentrés du ministère ou même dans les services centraux des agents dont on aura vérifié qu'ils ont la compétence managériale. Parce que quelqu'un qui est responsable d'un groupe, il doit être capable de motiver l'ensemble de ses agents pour les tirer tous vers le haut. Or, ce qui se passe actuellement dans la fonction publique, c'est qu'on nomme les agents en raison de l'ancienneté ou de différents postes qu'ils ont occupés. Moi, j'ai connu des gens qui étaient sous-directeurs dans un ministère. On leur a donné un gros poste en service déconcentré sans vérifier une seule seconde qu'ils avaient les capacités managériales pour s'occuper de 10, 20, 30,
Merci.
150 personnes.
Merci Gérard d'avoir posé la question du management. Merci beaucoup pour cette intervention. La question du management, Joan Teret, elle est importante. Elle a été mise sur la table par un certain nombre de collectifs de fonctionnaires.
Tout à fait. La question du management est en effet importante. Alors quand même, je voudrais rassurer Gérard, les choses évoluent quand même en termes de management d'équipe. Il y a quand même des plans de formation qui sont quand même très très ambitieux aujourd'hui menés par les employeurs publics. Mais en effet, c'est important pour donner du sens aux équipes, pour les responsabiliser, pour leur donner de l'autonomie, en effet, que les managers soient formés et accompagnés. C'est un sujet extrêmement important. Et là-dessus, pour le coup, on espère que le projet de loi contiendra des dispositions, et notamment concernant les moyens donnés, dédiés à la formation des agents publics. C'est un élément extrêmement important.
De ce côté-là, vous attendez du nouveau du côté du projet de loi ?
Ah oui, parce que je pense qu'il y a la question du financement, il y a la question de l'accès à la formation, notamment le droit individuel à la formation. Hein. Aujourd'hui, les fonctionnaires n'y ont pas accès. Et en effet, c'est donner la possibilité de confier des responsabilités responsabilité managériale à des encadrants après avoir la certitude qu'ils ont pu valider et avoir les compétences. Ce qui d'ailleurs soulève une problématique concernant la différence entre les contractuels et les titulaires. Aujourd'hui, quand on est titulaire, après être lauréat d'un concours, on a une formation avant titularisation qui est obligatoire, c'est-à-dire une sensibilisation au sujet public, au sujet managériaux, alors que quand on est contractuel, il n'y a pas de formation. Ce qui est une vraie différence et ce qui soulève aujourd'hui pas mal de questions et de problématiques de gestion et de management.
Vous voyez, Xavier Iacovelli, que les fonctionnaires veulent que les choses changent, évoluent, bougent.
Je note effectivement que du coup, en fin de discussion et d'interview, le projet de loi est intéressant. En tout cas, il est intéressant d'avoir un projet de loi.
Mais il n'a pas été présenté de cette façon-là par le ministre.
C'est-à-dire qu'au début de discussion, on dit ça ne sert à rien de faire un projet de loi. Et puis en fin de compte, quand on parle entre nous, on se rend compte qu'il y a quand même des améliorations à apporter dans notre fonction publique. Et c'est tant mieux. Et c'est aussi notre volonté réformiste à tous de faire cela. Donc oui, moi je pense qu'il y a des améliorations à apporter sur la question de la formation, sur la question de la mobilité à l'intérieur aussi de la fonction publique, sur la question de la revalorisation et la réévaluation aussi de la promotion interne. Je pense effectivement que les catégories A, B, C, je l'ai dit tout à l'heure, sont un peu désuètes et qu'il faut aujourd'hui sortir peut-être de le cadre seulement d'un emploi par rapport au diplôme, mais plutôt un emploi par rapport à la compétence, par rapport à l'envie aussi que les agents publics peuvent avoir sur tel ou tel poste. Moi, je pense que c'est ça aussi la rémunération au mérite, c'est faire en sorte que chaque agent puisse se sentir utile dans le poste qu'il a et pas uniquement avoir le poste par rapport au diplôme qu'il a obtenu. Donc moi, c'est ça aussi la modernisation de notre fonction publique.
Mylène Jacot, sur cet aspect-là, le management, et puis sur les catégories.
Encore une fois, d'abord pour tout ça, hormis les catégories, mais sur les sujets management, il n'y a absolument pas besoin d'une loi. Et ça fait quand même des années que côté CFDT, on insiste pour dire qu'il y a un vrai sujet autour de la compétence en matière RH, que c'est des métiers dont on a de plus en plus besoin et qu'il faut accompagner, reconnaître, et que les agents qui sont chargés d'encadrement, quel que soit leur niveau dans l'encadrement, ont aussi besoin d'être accompagnés et formés. Et ça, on a quand même du mal à être entendu de manière vraiment utile. Tout le monde opine du chef en disant qu'effectivement c'est un sujet, c'est intéressant, etc. Mais il n'y a pas grand-chose qui bouge. Sur la question des catégories, cela fait des mois, mais des mois, et déjà à la fin du quinquennat précédent, il y avait eu un chantier fort intéressant d'ailleurs ouvert qui s'appelait Perspectives salariales et qui avait permis d'échanger un peu en profondeur sur un certain nombre de sujets, que la CFDT avait dit que les catégories, c'est un identifiant fort, mais vraiment fort, auquel les agents sont attachés, et que la suppression des catégories serait un chiffon rouge. Vous n'allez pas expliquer du jour au lendemain à 5 millions de personnes que l'organisation qu'ils connaissent, en fait, elle était nulle, décalée, inutile. Ça n'est pas comme ça qu'on conduit le changement.
Mylène Jacot, je peux me permettre une question directement à la CFDT, si vous pouviez me faire une réponse un peu courte, parce que l'heure tourne et on a encore du monde au standard. Les réactions ont été vives du côté de la CGT suite à la réunion qui a eu lieu avec le ministre cette semaine et à ses déclarations dans la presse. La CGT a réagi en déposant un préavis de grève pour les trois fonctions publiques à partir de lundi pour toute la durée des Jeux Olympiques, notamment jusqu'au mois de septembre. Qu'est-ce que vous allez faire de votre côté? Vous allez réagir de la même façon?
À ce stade, il n'est pas question pour nous de déposer un préavis de grève sur la période des JO pour un sujet qui n'est quand même pas tout à fait lié à celui des Jeux Olympiques. Après, on verra comment on va évoluer la concertation et comment les choses vont avancer. À ce stade, c'est pas la demande qui est faite par nos équipes.
Merci beaucoup. On va prendre un dernier appel. Annie est à La Rochelle. Bonsoir Annie.
Oui, bonsoir.
Je vais être obligée de vous demander de faire court aussi.
Je vais faire très court. J'ai été 44 ans fonctionnaire, ça fait 3 ans que je suis à la retraite. Et pendant 4 décennies, j'ai vu les conditions de travail des fonctionnaires ne cesser de se dégrader. Et parallèlement, de plus en plus, je voyais mes collègues, j'ai été au ministère des Finances, puis les 20 dernières années au ministère des Armées, Je voyais de plus en plus de collègues traiter non pas des dossiers concrets et réels, mais triturer toute la journée des chiffres sur des tableaux Excel, à compiler des données, à faire du reporting, tâches qui servent très très peu aux ressortissants, aux administrés, qui sont finalement nos bébés, enfin un peu nos ressortissants. Bon, donc ce que je voudrais dire, c'est qu'on parle beaucoup effectivement dans cette émission d'efficacité. Le ministre, il parle d'incompétence, qu'il s'interroge sur la compétence de ses chargés de mission, des directeurs et des chefs de service qui donnent des ordres souvent inappropriés, qui font faire du travail inutile aux agents.
Merci beaucoup pour cette intervention, Annie. Xavier Iacovelli, qu'est-ce que vous lui répondez ?
Non, moi, je suis pas sûr que le ministre ait parlé d'incompétence. Je pense pas que ce soit ses mots, et en tout cas, c'est pas la volonté de la majorité présidentielle d'aller dans ce genre de propos. Ce qu'on veut, effectivement, c'est une efficacité du service public, parce qu'encore une fois, ce sont l'argent des Français qui sont là. Et donc, je pense que la consultation, comme l'a dit, la concertation qui est en place avec les organisations syndicales va permettre d'apporter des solutions concrètes pour l'amélioration du quotidien, des conditions de travail aussi, des agents pour améliorer le service public.
Je hanterai.
Je souhaite vraiment que cette loi réponde aux problématiques actuelles de la fonction publique et qu'elle ne soit pas stigmatisante et infamante pour les fonctionnaires.
Donc vous vous retrouvez dans ce que nous a dit Annie à La Rochelle à l'instant. Le mot de la fin, il est pour vous, Mylène Jacquot, mais si vous me promettez de faire court, en guise de conclusion, normalement, ce projet de loi, ce serait censé être prêt pour avant l'été, c'est ce qu'a dit le ministre.
Moi, ce qui nous surprend, sauf à ce qu'il soit déjà quasiment écrit, nous, ce qu'on a dit, c'est que le projet de loi sera acceptable par les agents s'il répond aux enjeux qui sont ceux des agents.
Et normalement, vous avez une réunion au ministère le 14 mai. Vous devez vous retrouver avec les autres syndicats le 6 mai, c'est bien ça ?
Oui, je crois qu'il y a une demande. On n'a pas encore tous répondu. Il faut qu'on regarde nos disponibilités.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu ce soir aux questions de France Inter. Juste après les infos de 20h, c'est Patricia Martin pour leur philo.
Bonsoir
Patricia.
On va parler de l'expérience de l'oppression avec une toute jeune philosophe qui s'appelle Michaël Provost.
Eh bien, ça sera formidable. Merci beaucoup Patricia. Leur philo, c'est après les petits bateaux de Camille Cronier.
Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 6 ans et demi et je voudrais savoir est-ce que les animaux réfléchissent comme les humains. Merci, au revoir.